Afrika.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique, ravi de vous accompagner pendant ces 55 prochaines minutes pour parler de football africain avec deux sujets majeurs, le bilan des matchs amicaux, des dates FIFA un peu partout et les previews des rencontres des compétitions continentales, les quarts de finale qui ont démarré hier en Champions League avec notamment la victoire d'El Ahly sur le terrain de Simba. 1-0, d'ailleurs, nous en parlerons dans quelques instants avec notre première escale. Elle nous mènera à Paris avec Franck Simon. Bonjour.
Salut Amine, salut les Martins.
Alors, on va commencer tout d'abord par les dates FIFA, les matchs amicaux. Maroc-Mauritanie, 0-0. Beaucoup de critiques ont plu depuis lors sur les choix tactiques de Walid Regragui. Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer après ce match face au Mourabitoun?
On peut s'inquiéter d'un manque d'efficacité, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, ni du match précédent contre l'Angola. Une inefficacité qu'on avait déjà remarquée lors de la grande échéance de la Côte d'Ivoire, la CAN. Maintenant, voilà, il y a des matchs très importants qui arrivent en juin. Je pense qu'il a, le sélectionneur national, il a encore le temps de réfléchir à peut-être à ses options. À aller vers plus d'efficacité dans ce domaine. Ce qui est rassurant quand même, c'est que l'équipe n'encaisse plus de buts. Ça, c'était un chantier qui était important, hein. On en a parlé l'autre jour ensemble. Mais c'est vrai qu'un but en deux sorties, là, contre une Mauritanie qui ne présentait pas son équipe type, c'est pauvre. Surtout quand tu vois les noms qui étaient alignés sur le plan offensif. Je comprends aujourd'hui que les journalistes, les médias, les observateurs soient à s'interroger sur effectivement cette efficacité.
En revanche, ça roule pour le Sénégal qui a gagné ses deux matchs amicaux. On retrouve la dynamique qui a précédé la CAN dans l'équipe d'Aliou Cissé.
Je suis très d'accord. Effectivement, il y avait 31 joueurs qui étaient en France. Il y en a 23 qui ont été utilisés. Il y a eu beaucoup de débutants. Saïdou Sano, Habib Diarra, le petit Lamine Diouf de 15 ans. On a eu aussi le joueur de la réserve du Barcelone, Mikhaïl Ngorfaï. On a vu de belles choses. On a vu aussi une équipe qui a été un petit peu chahutée par le Bénin quand même, hein. Mardi soir à Amiens, ils se sont imposés sur un pénalty de Sadio Mané. C'est un résultat, je trouve, relativement flatteur pour les Lions de la Teranga. Alors, effectivement, ils ont remporté leurs deux matchs. Il y a eu un gros turnover. Il y avait 11 joueurs différents d'un match à l'autre au coup d'envoi. Il se satisfait de ça, Aliou Cissé, parce que lui aussi restait sur l'élimination précoce à la CAN. Et du coup, ça fait du bien. Il repart sur une autre dynamique, mais eux également ont un souci d'efficacité sur le plan offensif par instant, parce que contre le Bénin ils ont été chahutés tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à tuer le match, quoi. Et face à une équipe qui avait une énorme envie de les bousculer, on les a vus dans le doute. Donc pour moi c'est un petit peu en trompe-l'œil le deuxième match. Autant contre le Gabon, c'est vrai, c'était plutôt abouti, autant contre le Bénin, ça l'était moins.
Et puis que penser de cette équipe du Mali qui a finalement été la grande bénéficiaire de cette date FIFA ou de ces dates FIFA avec deux matchs de victoire, notamment un succès de prestige face au Nigeria?
Ouais, c'était impressionnant. Alors d'abord contre la Mauritanie pour se mettre en jambes. 2-0, un score qui avait été acquis à la pause. Et puis effectivement, cette victoire contre le Nigeria. C'est un Nigeria qui n'a plus de sélectionneur, hein. C'est un intérimaire, Finidi George, l'ancien adjoint de Pesero, qui était sur le banc. C'était un Nigeria sans Osimhen également, mais c'est quand même le vice-champion d'Afrique et il s'est fait bouger et il a perdu très logiquement. Et le Mali confirme en ayant récupéré aussi certains joueurs entre la CAN et mars. Le Mali confirme tout le bien qu'on pense de lui dans le jeu. C'est une équipe super séduisante. C'est une équipe qui marque toujours des buts, enfin la plupart du temps. Et il faudra effectivement compter sur cette équipe dans l'optique d'une Coupe du Monde 2026, par exemple. Même si entre-temps, on aura une Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je continue d'en faire un outsider solide, mais j'aimerais surtout les voir sur la scène mondiale, eux qui ont pris la bonne habitude de travailler dans les catégories de jeunes, notamment dans les Coupes du Monde, quoi. Donc, bravo, effectivement, au Mali.
Et ça finira normalement par payer à terme. Finirai quand même par les compétitions des clubs. Hier, Ali est allé réussir un gros coup sur le terrain de Simba avec une victoire, 1-0. Sur la physionomie du match, est-ce que c'est mérité?
Pour moi, ça l'est, parce qu'il y a de la maîtrise dans cette équipe-là, quand bien même c'est une équipe qui était privée de certains joueurs. Je pense à Emma Machour, qui s'est blessée il n'y a pas très longtemps. El Shenawy, le gardien, s'est blessé pendant la CAN. Ils ont réussi vraiment une belle perf et ils sont bien partis pour être dans le dernier carré. Il y a de la maîtrise toujours avec eux. Ils savent être patients, ils savent l'emporter. Ils ont une expérience que très peu de clubs sur la scène africaine ont, à part peut-être l'Espérance et puis les Mamelodi Sundowns. Voilà.
Et pour conclure, est-ce qu'on peut présenter les trois prochaines affiches, celles de ce soir? Parce que je ne vois pas une équipe se distinguer du lot lors des trois rencontres qu'on va suivre avec beaucoup de passion sur tous les terrains d'Afrique et qui compléteraient les quarts de finale aller de cette Champions League africaine.
Ouais, moi je vais commenter Mazembe contre le Petro Atlético. Mazembe de Lubumbashi qui reçoit chez lui les Angolais. Les Angolais qui ont encaissé aucun but dans la phase de groupe. Ça va être compliqué hein, pour le champion du Congo d'aller chercher une perf à la maison. C'est pas impossible, mais c'est face à une équipe qui est quasiment invincible, quoi, qui a une défense de fer. Donc voilà, a priori, ouais, on part plutôt sur un match nul. En revanche, l'Espérance reçoit la SEC d'Abidjan, l'Espérance de Tunis, et je vois bien Taraji s'imposer. Depuis décembre, ça va de mal en pis du côté de la SEC d'Abidjan. Ils ont perdu la plupart des matchs qu'ils ont eu à disputer, notamment en championnat. Ils avaient perdu aussi contre Wydad, tu te souviens, lors de la J6 de la Ligue des Champions. Et je vois quand même l'Espérance s'imposer face à cette équipe qui me semble avoir perdu énormément en vendant sa petite pépite Karamoko Sankara à un club autrichien qui pour moi n'est pas le plus grand club autrichien d'ailleurs, mais bon. Voilà, ils ont perdu ce buteur et je trouve qu'ils ont perdu un peu de leur âme. Ils me paraissent vraiment moins sûrs qu'avant. Et puis on a aussi le deuxième club tanzanien, Yanga. Ça va être un gros morceau là encore hein, que ce club tanzanien qui, je crois, joue les Sundowns. C'est un match, encore une fois, hein. Les Sundowns ont remporté l'African Football League, ils ont montré de très belles choses en phase de groupe, même sans être séduisants dans le jeu, ils ont acquis cette expérience qu'ils partagent avec le Ahly, savoir à un moment donné accélérer, marquer le petit but qu'il faut, se recroqueviller pour repiquer ensuite. Ça, ils savent faire. C'est une équipe qui compte 10-12 joueurs qui ont été médaillés de bronze à la CAN. Même si Yanga à la maison est quasiment invincible, je pense que les Sundowns peuvent marquer là-bas et prendre une petite option pour la suite et pour le dernier carré, quoi.
Merci beaucoup, Franck Simon. Un tout dernier mot. Merci. Sur le match peut-être de la RSB qui se déplace à Benghazi pour affronter la grosse inconnue en Coupe de la CAF, Bouslim.
Ouais, alors moi j'y crois parce que je l'ai déjà dit, hein. Dans ton émission, Berkane, c'est une équipe qui n'affiche pas forcément ses ambitions continentales, mais qui a déjà gagné deux fois cette compétition. Ils avancent un petit peu masqués. Il n'y a pas eu d'effet d'annonce, mais eux aussi savent se montrer efficaces. Effectivement, ils vont à Benghazi jouer à Bosselem. C'est l'équipe surprise, c'est l'équipe qui découvre cette compétition. Pour autant, l'expérience, elle est du côté de Berkane. Donc, normalement, ils doivent être en capacité de marquer. Et je pense notamment à Paul Bassène, leur attaquant sénégalais, qui de temps en temps met des buts importants. Donc, pourquoi pas lui? En tout cas, l'avantage, je pense, sur la double confrontation, elle est pour le club de l'Oriental.
Merci beaucoup, Franck Simon. On se retrouve très, très bientôt. Franck Simon, spécialiste du football africain et qui a éclairé notre lanterne concernant je dirais, tous les sujets, c'est-à-dire qu'il a ventilé. Maintenant, on va se focaliser petit à petit sur chacun de nos amis envoyés spéciaux correspondants pour parler un peu de leur pays, de ce qui se passe avec les sélections nationales ou avec les clubs engagés dans les compétitions continentales. D'ailleurs, nous allons faire une première escale sur notre continent, Boyko en Bénin, avec Élisée Onkpatine. Bonjour.
Oui, bonjour Amin Birouk et bienvenue au Bénin.
Et on va se focaliser sur cette équipe du Bénin qui a bien embêté et la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Et bien évidemment, on a vu cette belle sélection hein, qui, quand même, au-delà de toutes les critiques, puisque après la liste dévoilée par Guénot Ro, il y a eu tellement de critiques par rapport aux joueurs sélectionnés, puisque De Koun n'était pas bien évidemment titulaire dans leur club. Je les ai cités, bien évidemment, puisque Guénot Ro, même en conférence de presse, disait quand même que lui ne fera plus confiance à ces joueurs à qui il manque de temps de jeu. Mais à notre grande surprise, il les a tellement sélectionnés. Sur les 23 qu'il a sélectionnés, eh bien, ils étaient tout au moins au nombre de 8, vous imaginez. Donc, ça a suscité beaucoup de critiques. Eh bien, sur le terrain, on a vu un autre visage de cette sélection béninoise qui s'est bien comportée d'abord contre les champions d'Afrique, les récents champions d'Afrique qui ont eu du mal quand même à bien s'illustrer face à cette équipe béninoise. On les a vus à chaque fois menés au score et ce sont eux qui sont revenus. Donc, grâce à Junior Oulaitan, le milieu terrain du club de Troyes en Ligue 2 française. Donc, c'était un match plein et où il y avait beaucoup de phases de jeu. Donc, Guénot Ro, à la fin de la rencontre, était satisfait de la prestation de ses joueurs puisqu'il a quand même vu certains qui se sont quand même bien comportés, notamment Youssouf Assogba qui n'était pas à qui on ne donnait pas au départ le poste de titulaire du côté de latéral droit puisque Moumeni était là. Et bien, il a démarré à ce poste-là. Puis après, le jeune défenseur de Ayema est rentré dedans. Donc, on a vu une très belle prestation des Béninois. Face au Sénégal, le Bénin pouvait aussi faire mieux. C'est vrai que le Bénin a perdu sur le fil grâce à un pénalty de Sadio Mané. Le Bénin qui a vendangé deux occasions de net de but. Vous imaginez Andrea Mutondi qui quand même a balayé tout sur son côté droit. Avec ce déboulé, il a dû centrer pour Steve Bounier qui avait le poteau grandement ouvert, mais il n'a pas pu cadrer ce joli centre à ras de sol. Il pouvait le mettre simplement au fond des filets, mais il a manqué le geste qu'il faut pour pouvoir mettre le ballon au fond défilé. Donc, sur la seconde occasion, c'était un pénalty que les Béninois ont pu trouver, mais encore Steve Mounier a manqué le cadre puisque son pénalty a été stoppé par le gardien de but sénégalais. Donc, c'était quand même une phase de jeu qui pouvait permettre aux Béninois de prendre l'avantage, de prendre tout au moins deux buts d'écart, mais par manque de maladresse, eh bien, les Béninois n'ont pas pu de scorer comme en football, ça se fait cash. Les Sénégalais sur l'une de leurs rares occasions, eh bien, sur penalty, ça a demandé à scorer. Eh bien, les Sénégalais se sont contentés du service minimum et ont battu les Béninois. Mais dans l'ensemble des deux matchs, vous l'avez dit, les Béninois se sont bien comportés. C'est un match amical, mais cela augure un lendemain meilleur puisque l'objectif, Guénot Ro l'a rappelé à la fin du match contre le Sénégal, c'est toujours la Coupe du Monde, même si le Bénin manque du répondant, même si le Bénin est en retard au classement, il faudra quand même bien négocier les prochains matchs qui arrivent très bientôt, puisqu'il y aura la double confrontation contre le Nigeria. Donc ça s'annonce très, 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 très compliqué. En tout cas, le Bénin sait bien l'illustrer, mais pour les matchs officieux, il faudra faire mieux, c'est-à-dire remporter au moins les 3 points de ce match, puisque cela fait déjà 13 matchs, et Amin Birouk, que le Bénin ne s'est plus imposé dans un match officiel. Depuis que Guénot Ro est là, ça fait 8 matchs sans victoire. La seule victoire, c'était sur tapis vert contre le Rwanda.
Et cette série est inquiétante, même si le contenu a été plutôt rassurant lors de ces deux sorties amicales de la sélection béninoise. Alors, on va parler un peu de compétition continentale. Une petite présentation des 4 quarts de finale. Il y a eu déjà la victoire de l'Ali. On se focalise sur les 3 matchs qui restent Élysée, notamment sur ce duel qui promet entre Young Africans et Mamelodi Sundowns.
Est-ce que c'est un duel qui promet? C'est vrai que les clubs tanzaniens ont commencé par faire fort durant les trois dernières saisons. C'est vrai, bon, ils ont quand même évolué, surtout sur le plan financier, sur le plan organisation. Mais l'expérience, il reste encore, puisque hier, on l'a vu face au tenant du titre à la Ligue. Et Simba n'a pas pu faire grand-chose. Donc, cet après-midi, ce sera face au récent champion de cette coupe de cette super coupe africaine, la toute nouvelle compétition des clubs, organisée entre la CAF et la FIFA. Vous imaginez. Donc, les Mamelodis sont dans ce qui sont très en forme. Et on a vu certains de ces joueurs lors de la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire où 9 joueurs ont été sélectionnés. Vous imaginez. Donc, non seulement ces joueurs sont en forme, mais ils ont acquérir encore une autre expérience de compétition de haut niveau. Donc, en tout cas, Young Africans est à domicile. Tout peut se passer puisqu'en football, les sens ne sont jamais exacts, vous imaginez. Donc, ça peut se passer autrement sur la pelouse bête. Mais quand on prend sur le papier, on voit largement que les Sud-Africains peuvent prendre l'avantage déjà dès l'autre, dès le match aller. Ça se complique pour les Tanzaniens. En tout cas, selon mon avis, le Mamelodi Sundowns passe favori sur papier. C'est vrai, sur le terrain, on peut assister à un autre résultat.
Merci beaucoup, Élisée Onkpatine. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Mars Africa. Nous, on va voyager, bon, on va pas aller très loin. Puisqu'on passera du Bénin à la Côte d'Ivoire avec Elisabeth Gollet qui sera des nôtres dans les prochains instants pour parler de deux choses, des résultats des éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre. Ils ont fait un match nul avec le Bénin de partout, une victoire de prestige devant l'Uruguay, et puis la SEC d'Abidjan en danger face à l'Espérance de Tunis, Dixit Franck Simon. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Amine.
Alors on va commencer par la SEC d'Abidjan. Est-ce que le club de Sol Beni n'est pas en danger contre l'Espérance de Tunis en quart de finale aller de la Champions League? Oui, Elisabeth.
Allô.
Oui. Alors je disais, est-ce que l'Espérance de Tunis ne représente pas un danger pour la SEC d'Abidjan ce soir en Champions League?
Non, l'Espérance de Tunis ne représente pas un danger pour la SEC Mimosa ce soir, dans la mesure où ces deux clubs se connaissent parfaitement pour se rencontrer à plusieurs reprises. Et donc, c'est vraiment des retrouvailles pour ces deux formations. Mmh. Parce qu'on sait qu'en 6 confrontations entre l'Espérance de Tunis et la SEC Mimosa, la SEC l'emporte largement. Donc, en termes de statistiques, la SEC a un avantage psychologique sur les or et sang qui, eux, vraiment espèrent parce que, qu'est-ce qu'on peut dire, ils comptent une seule victoire contre un match nul et 3 défaites face à la SEC Mimosa. Donc, les or et sang de la Tunisie espèrent vraiment remonter cette pente-là pour pouvoir aller de l'avant dans cette compétition. Et ce que c'est la SEC Mimosa dans cette compétition les veut également redorer son blason, comme j'ai coutume de le dire, la SEC veut redorer son blason au niveau continental. Donc les choses ne seront pas du tout faciles. C'est vrai que les hommes de Miguel Cardozo jouent sur leur terre avec les supporters de l'Espérance que l'on connaît, des fervents supporters et autres, le 12e homme qui va apporter beaucoup à ce club. Mais il faut dire que ce ne sera pas de tout repos parce que Arsène...
Ce ne sera pas de tout repos, bien évidemment. Allez, on va penser aussi on va penser aux éléphants de Côte d'Ivoire. Deux résultats mitigés, match plutôt décevant contre le Bénin. Mais il y a eu après, comme on tient à le rappeler, ce succès de prestige face à l'Uruguay sur le score de 2 buts à 1. Est-ce que ce deuxième match vient rassurer les supporters avant le retour des éléphants en compétition, en éliminatoire de la Coupe du Monde au mois de juin prochain?
Oui, effectivement, c'est vrai que la SEC a battu l'Uruguay, l'une des meilleures formations, des meilleures sélections de l'Amérique du Nord, tout et tout, mais ce match nul face au Bénin a laissé un arrière-goût aux supporters ivoiriens qui espéraient vraiment voir les éléphants battre les guépards parce que au point de vue statistique, les éléphants avaient quand même, avant cette rencontre, avaient une très belle, un très bel avantage psychologique au niveau statistique sur les guépards, bon, à l'époque écureuils. Bon, maintenant, on se dit sûrement peut-être que le nom et autres les a requinqués. Mais il faut dire que ce match nul laisse un goût amer aux supporters ivoiriens. Mais toutefois, la victoire face à l'Uruguay a redonné un peu d'espoir aux Ivoiriens qui se disent que la sélection peut mieux faire. Et ils se disent même souvent sur les réseaux sociaux, certains vont même jusqu'à dire qu'il vaut mieux disputer les rencontres amicales et autres face à des équipes de haut rang, des sélections de haut rang, plutôt que face à des sélections africaines. Mais toutefois, il y a encore du boulot à abattre, il y a du travail à faire. Et puis, il faut aussi féliciter Guéla Doué qui, pour sa première sélection, a marqué un but de très belle facture, un but vraiment d'anthologie qu'on peut enseigner aussi dans les établissements de sport. Donc, il y a du travail à faire. Faye Emesse qui n'est pas au bout de ses peines, qui n'a pas encore la sélection qu'il faut. Et donc, il va se mettre à travailler, il va se mettre à rechercher aussi d'autres pépites pour pouvoir renforcer certaines parcelles de sa sélection.
Certaines parcelles de sa sélection, ce sera à partir du mois de juin prochain avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Elisabeth Goli. Nos salutations à nos amis ivoiriens depuis Abidjan, à Bouaké, à Saint-Pédré et dans d'autres villes qui nous suivent et qui suivent l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire. 10h23, on remonte vers le nord du continent avant Tunisie. Ahmed Adela, bonjour.
Bonjour, cher ami. Bonjour, à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
On se focalise sur le match de ce soir. L'Espérance de Tunis, c'est un coup à jouer face à la SEC d'Abidjan. Quels sont les ingrédients pour pouvoir réussir le match aller parfait en quart de finale de Champions League?
Bon, comme l'a dit Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC, la SEC a toujours posé de problèmes, hein, souvent. Plutôt, pas toujours, a souvent posé des problèmes à l'Espérance sportive de Tunis. Donc, l'Espérance de Tunis connaît déjà l'historique de ses rencontres face à la SEC. La SEC qui remonte en puissance ces dernières années, retour sur scène, même si au championnat ivoirien, ils sont dans une mauvaise passe. Par contre, niveau l'Espérance, il y a de l'expérience déjà, ça c'est un, mais il y a aussi une évolution dans le système de jeu, dans le rendement, dans les performances. Depuis l'arrivée du Portugais Miguel Cardoso, on a commencé à revoir cette équipe d'Espérance qu'on connaissait depuis des années. Je pense que l'Espérance a intérêt à marquer le plus grand nombre de buts au match aller parce que le match retour, le 6 avril, sera certainement un match très difficile à jouer.
On parle aussi des Aigles de Carthage, deux matchs lors des FIFA Series en Égypte. Une défaite au tir au but face à la Croatie après un nul blanc, une victoire au tir au but aussi devant la Nouvelle-Zélande. Quels sont les tops et flops de ces deux rencontres? Est-ce que le supporter tunisien était rassuré par rapport à ces deux sorties des Aigles de Carthage?
Pas vraiment satisfait, mais le plus inquiétant c'est que comme par exemple pour l'équipe nationale marocaine, le nombre de buts marqués, même si le Maroc a marqué du but lors de la CAN, mais une stat qui fait peur, 5 matchs, un seul but pour la Tunisie, c'était face aux Maliens lors de la CAN. Je pense qu'on est encore dans une mauvaise impasse pour la sélection tunisienne. Il faut absolument faire très vite et trouver le sélectionneur. On a parlé évidemment d'Hugo Broos. Hugo Broos, il a nié dans la presse sud-africaine. Ils ont même publié une petite vidéo dans le vestiaire de l'Afrique du Sud où il nie catégoriquement son départ. Mais je peux vous assurer qu'il a été contacté par la fédération. Il a donné son accord. Il a dit que voilà, j'attends. Ils lui ont demandé d'attendre jusqu'à la tenue des élections du bureau fédéral. C'était prévu le 9 mars, on en a parlé. Il a accepté d'attendre. Après les élections, ils ont été reportés. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Mais si l'on résume, il n'y a pas vraiment de très grands points positifs à retirer de cette participation au tournoi en Égypte, à part peut-être la première titularisation, le premier match de Yassar, de l'ailier gauche de São Paulo, Bundesliga, Second Bundesliga, Bundesliga 2, et quelques autres bons éléments. Mais par contre, l'évolution, on n'a rien vu par rapport à la CAN. Deux matchs nuls sans marquer le moindre but. C'est inquiétant.
C'est inquiétant. Et puis, une sélection sans patron, sans leader technique sur le banc de touche, c'est aussi inquiétant. Ça dépend aussi du vide fédéral, puisqu'il n'y a toujours pas d'élection, il n'y a toujours pas de président de la Fédération tunisienne de football. Est-ce que il n'y a pas le lien de cause à effet ? Pas de patron à la fédération, donc pas de sélectionneur, pas de décision. Oui. On gère les affaires courantes.
Oui. On peut résumer la situation avec l'image que vous venez de donner. Les élections, ils ont tardé. Il y avait des élections le 9 mars. Cette sélection a été gérée avec une main très forte par l'ancien président de la fédération tunisienne qui est emprisonné au Algérie, Rabbi Khalas Wahyo, comme on le dit en Tunisie. Peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, on n'est pas là pour juger les gens. On représente pas la justice, mais il y a ce problème-là, il y a ce problème de main forte. Après, le report des élections, il a quand même laissé des séquelles. Là, on se prépare à disputer deux matchs capitaux pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Ils vont vraiment trancher d'ici là parce qu'on va jouer contre la Namibie qui nous a battus. Il ne faut pas oublier qu'on nous a battus lors de cette CAN dans un match catastrophique lors de notre premier match à la CAN. Et on va aussi affronter la Guinée équatoriale, une des bêtes noires de la Tunisie, parce que ça commence à. La liste des bêtes noires pour la Tunisie en Afrique, ça commence à s'élargir. Il faut vraiment arrêter ce flux. Donc, il faut vraiment prendre des décisions. La qualité de joueur, elle est là. Les joueurs, ils sont là. Les joueurs, ils ont toujours accepté de représenter la sélection, même s'il y a eu du désistement lors de ce stage, Yusuf Sekni et Ali Bahloul. Mais il faut vraiment maintenant arrêter ce flux et prendre les choses en main et prendre surtout des grandes décisions, des décisions fortes.
Merci beaucoup, Ahmed Adala. On se retrouve très bientôt pour... Dès samedi prochain, pour continuer à parler de compétition continentale, il y aura d'ailleurs déjà le match retour entre la SEC et l'Espérance. Ça permettra de faire un bilan de l'aller et de nous projeter vers le match retour. 10h29, on se dirige au Caire. Là, c'est le Mestre Al-Qahira. Je vais parler avec Zamina Tariq Radouane. Sabah al-Khair, Oustad Tariq.
صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بكل الاشقاء وكل الشعب المغربي الرائع.
واهلا بك كذلك في اسره ماس افريكا اللي هو برنامج كل الافارقه. والسؤال يخص فريق الاهلي المصري الذي استطاع ان ينتصر على فريق سيمبا خارج الميدان. تقييمك للمباراه؟
والله المباراه صحيح كان سيمبا الاكثر سيطره والاكثر استحواذا على الكوره، ضربات ركنية وتسديدات على المرمى، لكن في النهاية العبرة في كرة القدم بالأهداف، العبرة بالفريق اللي بيقدر يحافظ على شباكه، العبرة بالفريق اللي بيقدر يسجل، وده اللي عمله النادي الأهلي. يعني سيمبا كان مسيطر صحيح على معظم فترات المباراة وبيوصل وخد كورنرز أكتر وخطورته أكتر، لكن النادي الأهلي الأكثر تماسكا. القصة مش بامتلاك الكرة، القصة في النهاية بنتيجة اللقاء، وده اللي عمله الأهلي نتيجة تعتبر إيجابية جدا خارج ملعبه، وهتساعده في ماتش العودة اللي هيبقى في ملعبه يوم الجمعة القادم. يكفي التعادل بأي نتيجة عشان يتأهل للدور نصف النهائي وينتظر الفائز من الترجي واسك.
يعني السيناريو شبيه بشكل كبير سيناريو لقاء ربع نهائي العصبة الإفريقية أو الأفريكان فوتبول ليج، حينما يعني سيطر الفريق سيمبا في مباراة الذهاب وانتصر الأهلي في رقعة الميدان، ولكن في مباراة العودة كانت صعوبات الفريق الأهلي. هل تنتظر يعني صعوبات مشابهة في لقاء العودة بالقاهرة؟
شوف حضرتك، يعني مع كل التقدير والاحترام للفريق سيمبا، بس كلنا في مصر هنا، وأنا كمقدم لبرنامج الكرة الأفريقية من سنوات عديدة يعني ومحل الرياضي، كلنا كنا مرشحين نادي الوداد فريق من العيار الثقيل الوداد عنده خبرات أفريقية، الوداد أعلى من سيمبا كثيرا، لكن فوز سيمبا على الوداد في تنزانيا 2-0 قلب كل الحسابات، ويعني أطاح بالوداد، وده خسارة كبيرة جدا. لكن صف تماما أنه يعني الوداد لو موجود بتختلف الأمور، طبعا فريق تقيل وفريق مميز. مباراة العودة الأهلي وسيمبا أعتقد الأهلي لن يجد فيها يعني صعوبة، وإن كان فريق سيمبا بيأدي برضه خارج ملعبه بشكل جيد، بس هزيمة الأهلي في ملعبه 2-0 وفي استاد القاهرة أمام جماهيره أمر ليس سهل يعني.
نتكلم كذلك على المنتخب المصري اللي شارك في فيفا سيريز دوري رباعي مع كل من تونس كرواتيا ونيوزيلندا، كان فوز على نيوزيلندا، وبعد ذلك في المباراة النهائية هزيمة من المنتخب الكرواتي ب4-2. يعني في هذه المباراة هل هناك مؤشرات مطمئنة لمنتخب الذي يدربه حسام حسن بدون محمد صلاح؟
والله هو حضرتك الرأي العام أو الشارع المصري يعني اتزعج شوية من النتيجة، يعني خسرت مصر وفي ملعبها 4-2، وخاصة من الفريق المصري طول عمره خط الظهر عنده أو خط الدفاع بيبقى في منتهى القوة. ويعني انت لو رجعت كده بالتاريخ هتلاقي الفريق المصري لما بيخسر بيخسر 1-0 بيخسر 2-1، لكن 4-2 نتيجة تقيلة جداً وأزعاجت الشارع المصري. كان في بعض الأخطاء، يعني الكرات الثابتة كانت بتشكل خطورة على المنتخب المصري. الفريق المصري بعد ما دخل مرمى الهدف الثاني ابتدى حسام حسن المدير الفني يبحث عن التعادل، فدفع بتغييرات هجومية، ربما دي فتحت الملعب شوية للفريق الكرواتي اللي هو طبعا أجهز بدنيا واللي هو في المساحات يقدر يتحرك بشكل جيد، فسجل هدفين كمان الثالث والرابع وأضع فرصتين كمان. الفريق المصري سجل هدف في الوقت بدل الضائع، طبعا يعني كان هدف الشرف زي ما بيقولوا، لكن الوقت لم يسعفه. لكن كمجمل لا، الفريق المصري لسه عايز يعني في ملحوظات كثيرة، وفي مطلوب علاج لخط الظهر، مطلوب التركيز في الكرات الثابتة بشكل يعني أكثر جدية، مطلوب الاهتمام برضو بالجوانب الهجومية للفريق. لكن برضو كل الاحترام والتقدير للمنتخب الكرواتي، فريق الصغير تاني العالم في بطولة 2018 أمام فرنسا، تالت العالم في بطولة العالم الأخيرة في قطر، فيعني ليس عيبا الخسارة منه، لكن لابد أن أنت تتعلم من أخطائك، ده الأهم في كرة القدم.
منتخب كرواتيا الذي يجهز صفوفه لبطولة أوروبا الأمم التي ستعقد بين 14 يونيو و 14 يوليو. شكرا جزيلا أستاذ طارق رضوان، وإلى الملتقى في فرصة مقبلة إن شاء الله.
شكرا لحضرتك وتحياتي للجماهير المغربية وكل العاملين في راديو مارس.
شكرا وتحياتي كذلك للشعب المصري ولمحبي كرة القدم الإفريقية في مصر. 10h34 minutes cap sur Kinshasa pour parler avec Michel Taubeau de ce match entre le TP Mazembe et Petro Atlético. Ça va être très dur pour les Corbeaux, mais visiblement, Michel, il y a une confiance modérée de la part des supporters du TP Mazembe. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Voilà, très content de vous retrouver après voilà, la petite absence justement due au fait qu'il n'y avait pas d'actualité sportive, on va dire chaude, hein, voilà, par rapport au sujet de l'émission du samedi dernier. Voilà, je suis là à nouveau justement pour aborder cette actualité, voilà, la Ligue africaine des champions pour le tout-puissant Mazembe avec ce quart de finale face au Petro Atlético d'Angola, hein, ce match qui va se jouer donc à Lubumbashi. Voilà, Mazembe qui avait terminé deuxième de son groupe derrière les Mamelodi Sundowns va donc recevoir les Angolais donc du Petro Atlético. Voilà, les deux équipes, hein, voilà, toutes leurs chances, hein, en termes de niveau. C'est vrai que ça se jouera au niveau de l'expérience, mais en termes de niveau, aujourd'hui en tout cas, les deux clubs, en termes des résultats, se valent amplement. Donc c'est du 50-50 au fait, hein, voilà. Les deux entraîneurs se sont exprimés en conférence de presse d'avant-match. Lamine Diaye, l'entraîneur sénégalais du tout-puissant Mazembe, ainsi que Alexandre Santos, l'entraîneur portugais portugais de Petro Atlético. Voilà, voilà, comme d'habitude, on va dire respect mutuel. Hein. Mais Mazembe va jouer à domicile. Il faudra marquer, bien que le point fort de cette équipe angolaise, justement, c'est sa défense. Elle n'a pas encaissé le moindre but. Voilà, le moindre but depuis le début de cette campagne de Ligue de Champions. Donc voilà, c'est une défense assez solide. Mais Mazembe a également une statistique à domicile, voilà, qui va devoir défendre. Mazembe a gagné tous ses matchs, en tout cas cette saison en Ligue des Champions, tous les trois matchs que Mazembe a joué à domicile, Mazembe les a gagnés. Donc voilà, on aura une opposition de style et une opposition de statistiques également. Voilà, on verra dans la mesure du possible qu'est-ce que les deux formations vont nous donner sur le terrain. Mais c'est quelque chose, je le disais tantôt. Voilà, c'est un match très ouvert, qui fera en sorte que les deux formations puissent s'ouvrir naturellement. Voilà, le Petro Atlético joue à l'extérieur. Voilà, et elle voudra garder son invincibilité, non seulement son invincibilité, mais du fait que voilà, elle n'encaisse pas de but dans cette Ligue de Jovem Mazembe, doit nécessairement voilà, partir à Luanda dans une semaine avec une petite avance, voilà, ce qui va lui permettre justement d'aller jouer sa chance sur place à Luanda. Mais dans la mesure du possible, ce sera deux belles équipes, voilà, que nous aurons à voir sur le terrain. Voilà, mais nous, Congolais, bien évidemment, nous espérons que Mazembe va faire un bon résultat, parce que je le disais, voilà, lors de mes interventions, parce que l'arbitre de moitié du Congo a perdu une place, hein, en Coupe de la Confédération. Et si Mazembe arrive à aller loin dans cette compétition, voilà, ça peut faire en sorte que la balance penche du côté de la République démocratique du Congo et que la Confédération africaine de football nous redonne notre place en Coupe de la Confédération pour permettre justement à la RDC d'avoir encore 4 clubs en compétition africaine interclub la saison prochaine. Donc voilà, on ne peut que souhaiter bonne chance à Mazembe dans un premier temps. Voilà, mais bon, on va dire l'équipe la plus réaliste va certainement remporter cette double confrontation et se qualifiera certainement pour les demi-finales. Voilà, Mine Birouk, merci infiniment de m'avoir accordé encore, comme d'habitude, hein, ce petit temps pour cette petite analyse. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour le match retour, tout en espérant que les Tout-Puissants Mazembe fera en sorte de faire honneur à la paix démocratique du Congo lors de cette Ligue des Champions. Merci à vous et bonne continuation.
Bonne continuation aussi. Bon match, Michel Tobo. Il est 10h38 à Casablanca, 10h38 aussi à Bamako. C'est bien évidemment au Mali que tout se déroulera aujourd'hui à la Fédération malienne de football. Il y a des élections. Il y a de nombreux sujets évoqués avec Drissa Nyono. Bonjour Drissa.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Alors on va commencer par l'actualité, elle est toute brûlante puisqu'il y a des élections dans quelques minutes. Il y a une assemblée générale de la Fédération malienne de football.
Alors, ce n'est pas une élection, c'est plutôt une première assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de la saison écoulée et lancer la nouvelle saison qui a déjà commencé, approuver le budget. Donc, c'est une assemblée des retrouvailles entre les membres de la fédération qui sont habilités, bien évidemment, à approuver le rapport d'activité et le budget de la saison à venir. Donc, la saison déjà a commencé, mais comme déjà, chaque année, il faut attendre le premier trimestre de la nouvelle année pour faire le bilan, et le bilan des activités menées, le bilan des compétitions dans lesquelles la FEMAFOOT a participé, et ensuite faire le bilan des compétitions au niveau national. Et les travaux ont débuté depuis 9h après la cérémonie d'ouverture. Et pour l'instant, ce sont les membres qui doivent approuver et les rapports d'activité, le budget de la nouvelle année qui sont en conclave pour déterminer ce qui doit se faire pour la nouvelle saison en cours.
Alors on va parler aussi des Aigles du Mali. Les retrouvailles après Cannes se sont plutôt bien passées. 2 matchs, 2 victoires. On avait parlé la semaine dernière de la victoire face au Mourabitone de Mauritanie. La sortie face au Nigeria était beaucoup plus impressionnante. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Le Mali ne va plus jouer caché et va montrer ses prétentions pour se qualifier pour la Coupe du Monde et revendiquer une première victoire à la CAN.
Alors, l'un des discours du sélectionneur national Eric Sékouché était que C'est vrai, le Mali et le monde du football, surtout en Afrique, rigole du football malien parce que pour l'instant, au niveau de la catégorie senior, ils n'ont rien remporté. Et lui, à son arrivée, c'était se changer et cette appréhension déjà sur l'équipe nationale du Mali. Alors, son premier objectif, c'était quand même de faire une belle compétition à la CAN. Elle s'est arrêtée. Et il s'est arrêté en quart de finale. Alors, ce retrouvaille, c'était pour injecter du sang nouveau dans un groupe affecté par cette défaite du côté de Bouaké. Finalement, le premier test face au Mourabitoun de la Mauritanie a été reçu. Et face au Nigeria, les Aigles étaient surtout attendus parce que, on l'avait dit, cette génération n'avait pas encore un match de référence à son actif. Il faut rappeler que sous Mohamed Marasouba, qui a commencé à constituer ce groupe, ils ont joué contre le Sénégal, battu à Dakar 2-1. Ils ont fait une défaite face au Cameroun, un match nul face au Cameroun, pardon, 1-1, battu par l'Algérie 1-0 à Blida, et battu également par la Tunisie avant de prendre une revanche lors de la CAN en 2021. Mais finalement, ils vont perdre le barrage. Donc, c'est une formation qui n'avait pas connu, qui n'avait pas de match de référence à son actif. Et elle était attendue face au Nigeria pour enfin voir et sinon battre un gros. Et c'est ce qui a été fait, c'est vrai, face au Nigeria à ce 26 mars au stade de Marrakech. Même si à Bamako ici, on minimise un peu cette victoire parce qu'il n'y avait pas le capitaine, un certain Ekong ou encore l'attaquant vedette de cette formation nigériane, Victor Osimhen. En tout cas, le Mali, qui était attendu pour battre un gros, l'a quand même fait. Et ça faisait beaucoup d'années que le Mali n'avait pas encore battu le Nigeria, surtout en match officiel. Et donc, c'est vrai, c'était un match amical. En tout cas, il fallait quand même montrer un visage pour dire que le Mali est là. C'est vrai, le Mali est là. Et ces deux matchs, c'était pour mettre les esprits à l'ordre et surtout préparer de la première des manières ce match prévu en juin prochain ici à Bamako face au Black Star du Ghana où les Aigles vont recevoir à domicile avant un déplacement du côté de Madagascar.
Et on termine par la Coupe de la CAF demain à Bamako à 18h. Le stade malien joue gros face aux Ghanéens de Dreams. Il va falloir marquer, ne pas concéder de but pour pouvoir aller avec le maximum de sérénité au Ghana.
Alors, c'est vrai que le stade doit recevoir les Ghanéens de Dreams MC avec un nouvel entraîneur. Il s'agit de Mamoutou Kané Dimourlé, qui signe son retour encore une fois dans la famille des Blancs avant, après l'avoir quitté il y a une année et 3 mois exactement. Donc Mamoutou Kané avait démissionné et c'était l'Ivoirien Chaka Zizi qui avait pris la suite avant que celui-ci également soit remercié. Bakou Seck, qui était là depuis le début de la saison, a été finalement remercié il y a quelques jours pour, dit-il, au niveau de l'état-major du stade malien de Bamako, après une analyse approfondie de la situation sportive. C'est vrai, le stade est sur tous les tableaux pour l'instant, mais vu que depuis le 25 janvier 2024, le club n'avait pas remporté la moindre victoire à domicile en championnat, et restait sur 6 matchs sans victoire. Et finalement, ce match nul concédé il y a quelques jours du côté de Bougouni lors de la 20e journée du championnat a eu raison sur Sekou Seck Dibako, finalement, qui a amené cette formation en quart de finale presque 10 ans, 11 ans avant, 11 ans que le club n'avait pas atteint ces niveaux. Et ça faisait beaucoup également, ça faisait longtemps également qu'un club malien n'avait pas atteint ces niveaux de quart de finale au niveau de cette compétition. Finalement, c'est Mamoutou Kané Mourlé qui va prendre la place de Sekou Seck Bakou. Et il a dit lors de sa première réaction qu'il est venu pour poursuivre le travail de son prédécesseur, et Mamoutou Kané Mourlé, qui avait également été appelé en sapeur-pompier à chaque fois quand il est revenu du côté des stades, à une grande mission, c'est-à-dire remettre les Blancs sur le chemin, sur la marche de la victoire. Et ça va passer par ce match demain, donc face au Dreams FC du Ghana. Alors le stade malien de Bamako est toujours en course. Il va falloir montrer un autre visage sur Mamoutou Kané Mourlé et un autre état d'esprit avant les autres échéances parce que les Blancs doivent également jouer en quart de finale face à l'ASCO en Coupe du Mali, ensuite poursuivre avec le championnat ainsi que cette Coupe de la Confédération. En tout cas, Mamoudou Kanu Mourelai, c'est vrai, il a été champion d'Afrique avec le U20 du Mali en 2019 au Niger. Il a même été champion avec le Stade Malien de Bamako il y a plusieurs années de cela. Mais cette fois-ci, il est face à un autre challenge, comme il l'a dit, c'est-à-dire gagner demain pour mettre les esprits à l'ordre. Sinon, il va se remettre encore une fois. Lui aussi, les supporters du Stade Malien de Bamako, qui sont pas du tout patients et qui veulent coûte que leur équipe gagne, que ce soit en championnat, en Coupe du Mali ou en Coupe de la Confédération.
Merci infiniment, Drissa Niono. Rendez-vous samedi prochain pour continuer à parler de l'actualité du football malien, en particulier de cette confrontation, de cette double confrontation entre le Stade malien Bamako et les Ghanéens de Dreams. Il nous reste quelques incursions dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest pour pouvoir, bien évidemment, conclure ce numéro. Nous avons déjà atteint 10h46. Il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à découvrir et à raconter. Il va falloir aller en Guinée avec Chérif Aliou, il va falloir aller au Burkina Faso avec Jean-Modeste Ouédraogo. Ce sont un peu nos deux dernières escales ici du côté de Mars Africa. Je rappelle les programmes des matchs de Champions League et de Coupe de la CAF. C'est une façon pour nous de vous mettre à la page dès ce soir à partir de l'après-midi, plus exactement à 14h, TP Mazembe, P3 Atlético de Luanda, c'est à Lubumbashi. À 19h, Young Africans, Mamelodi Sundowns. Et à 22h, après la rupture du jeûne, à Rades, la SEC d'Abidjan devra en découdre avec la redoutable formation de l'Espérance de Tunis. Et puis, demain, en Coupe de la CAF, il y aura les quatre rencontres à 17h. Rivers United du Nigeria contre l'USM Alger. À 18h, Stade Malien Bamako Dreams. À 20h, ou plutôt à 19h, donc 16h, Rivers United du USM Alger. 17h, Stade Malien Dreams. 19h, futur Zamalek et Abou Slim, Renaissance Sportive de Berkane. Cap sur Ouagadougou avec notre ami Jean-Modeste Ouédraogo. Bonjour Jean-Modeste. Je suppose que ça gronde du côté des supporters burkinabés après les deux dernières sorties amicales des étalons qui ont changé de sélectionneur, qui ont changé d'effectif, mais qui n'ont pas changé de résultat par rapport à la dernière CAN. Bonjour Jean-Modeste.
Oui, bonjour Amine. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mass. Effectivement, le Burkina Faso a changé de sélectionneur. Brahma Traoré qui est arrivé, c'est un local, pour ne pas dire national. Et puis, voilà, sur le terrain, rien n'a changé puisque le Burkina Faso a aligné une défaite contre la Libye et puis une autre, un match nul contre le Niger.
Bien évidemment. Alors justement, sur le deuxième match, est-ce que le contenu a été meilleur même si le résultat n'a pas suivi?
Ah non, il faut dire que le Burkina Faso a bien démarré. Sur la 31e minute, il y a eu du jeu, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions. Mais finalement, pas de finition puisque voilà, Lassine Traoré, qui est le joueur évoluant à Shakhtar Donetsk, celui qui Brahma Traoré comptait, n'a pas pu en tout cas tromper hein, la vigilance du portier. Maintenant, finalement, à la deuxième période, c'était plus laborieux, c'était difficile dans les constructions. C'était compliqué en défense, il y avait beaucoup d'errements défensifs. Il faut aussi reconnaître que le gros chantier, c'est le milieu de terrain où, malgré la présence de Blassie Touré, le joueur du Pyramide d'Égypte, et c'est lui d'ailleurs qui portait le brassard, c'est vrai que pour ce regroupement, Brahma Traoré s'est passé quand même des cadres, hein, à savoir Bertrand Traoré et Issoufou Dayo qui évoluent à Berkane au Maroc chez vous. Et puis voilà, Hervé Koffi Kwaku le portier, ils ont tous été snobés et il a fait confiance à des jeunes joueurs. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. Et dans le contenu, en tout cas, les 30 premières minutes étaient bien, mais à la fin, voilà, le jeu n'était pas bon et je pense qu'avec cette équipe, le Burkina Faso ne va pas aller très loin dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui se profilent à l'horizon.
Merci infiniment, notre ami Jean-Modeste Ouédraogo qui nous accompagne depuis Ouagadougou, le pays des hommes inter que nous saluons et à qui nous souhaitons un très très bon week-end. Il est 10h50, on reste en Afrique de l'Ouest, on va en Guinée pour conclure cette émission avec Chérif Aliou. Bonjour Chérif.
Bonjour Pina, bonjour à tous.
Alors il y avait les FIFA Series pour la sélection du Sili National, ça c'est relativement, ça s'est très bien passé pour ce groupe New Look, puisqu'il y avait beaucoup de joueurs du cru dans cette sélection guinéenne qui a fait une large revue d'effectifs.
Absolument, Amine, hein, une équipe du Chili relookée hein, pour cette fenêtre FIFA, notamment ce tournoi FIFA Series, où la Guinée a signé 2-2, c'est-à-dire 2 matchs, 2 victoires. La première contre Vanuatu, soldée sous le score de 6-0. Et puis le dernier contre la Bermude, là aussi le Chili s'impose sous le score de 5-1. Donc 11 buts inscrits pour un seul but encaissé hein, pour cette équipe guinéenne qui a été fortement révélée parce que sur les 22 joueurs, il y avait 13 joueurs locaux tout de même, il faut le souligner. Hein, et un seul joueur qui était lors de la dernière CAN, c'est bien sûr le gardien du Oria AC, Moussa Camara Pimpin. Sinon, à part ça, tout le reste était des nouveaux joueurs. Il y avait aussi le retour de Morlaï Silla. Morlaï d'ailleurs qui a brillé hein, pendant cette finale FIFA parce que il a marqué hein, pendant ces deux rencontres là. Voilà, c'est des matchs qui en tout cas ont permis aux sélectionneurs d'avoir une idée sur certains joueurs qui pourraient donc pourquoi pas être sélectionnés pour les prochaines rencontres de la Guinée puisqu'il y a des rencontres assez importantes qui arrivent pour la Guinée notamment. Les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Mozambique et contre l'Algérie. Kaba Diawara, qui était en superviseur cette fois-ci, a eu le temps en tout cas de coucher quelques noms afin de renforcer cette équipe du Sud de Guinée parce que l'équipe a été entraînée par Souleymane Camara, qui est l'entraîneur hein, de l'ASM Sangaredi, donc un coach local. En tout cas, vous l'avez dit, hein, ça s'est très bien passé pour l'équipe de Guinée. Mais attention, il faut être en soutien parce que c'était contre deux équipes assez modestes voilà, au niveau du classement FIFA. Donc, il faudra s'emballer tout de suite. Il va falloir encore travailler puisque les prochains adversaires du Chili sont assez coriaces. Il y a parlé notamment de l'Algérie, mais également du Mozambique.
Et justement, quelles sont les perspectives d'avenir? Est-ce que il y a des joueurs qui ont marqué le coup? Est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont distingués et qui pourraient faire partie de la prochaine liste lors des dates FIFA de juin prochain où il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde?
Ouais, clairement, clairement. Mais on va surtout parler hein, du retour de Morlaï Silla, parce que ce joueur-là a fait beaucoup parler de lui hein, par ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, parce qu'il n'a pas été convoqué par le sélectionneur Kaba Diawara. Ça a frustré plus d'un, parce qu'on estimait qu'il devait être présent à la CAN. En lieu et place de Naby Keïta, par exemple, hein, le capitaine qui n'était pas en forme du tout, ben Kaba a dit que c'était un choix qu'il avait fait en mettant Morlaï Silla de côté. Ben là, Morlaï a répondu présent sur le terrain, comme tu l'as dit, en signant un doublé à chaque rencontre. Donc je vois très mal comment Kaba Diawara pourrait se passer de lui pour les prochaines rencontres. Voilà, il y a aussi quelques petits nouveaux qui ont fait forte impression, mais est-ce que ça suffit pour qu'il puisse bousculer la hiérarchie déjà établie par Kaba Diawara, puisque Kaba a sans doute en tête son équipe hein. C'est celle-là qui a disputé la dernière CAN. Donc ça sera compliqué hein, pour que voilà, pour qu'on puisse voir de nouvelles têtes, hormis bien évidemment Morlaï qui donc fait son comeback et avec la plus belle des manières.
De la plus belle des manières, avec de belles perspectives pour cette équipe de Guinée qui va voir de belles affiches au mois de juin prochain, et notamment face à l'Algérie où elle se déplacera début juin. Ce sera peut-être le match qu'il ne faudra pas perdre pour préserver ses chances d'aller pour la première fois de l'histoire du football guinéen à la Coupe du Monde. Chérif Aliou, je te remercie. Absolument. Je te remercie, je te souhaite un bon week-end et à tous nos amis guinéens. On se quitte en musique en promettant à nos auditeurs d'être dès l'heure, dès samedi prochain à la même heure pour pouvoir conclure en beauté cet espace ramadanien. C'est entre 10h et 11h heure marocaine et c'est toujours avec autant de plaisir que nous recevons l'Afrique à bras ouverts. Merci à Absamad qui a assuré la mise en onde aujourd'hui. C'était très bien. On se retrouve samedi prochain si vous le voulez bien. Dans quelques minutes, Bakesh El Koura, il n'y a pas que le football, précédé du Flash Info samedi prochain. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kyononi, no.
Vitanga.